Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Avoir les dents longues ou avoir une dent contre quelqu'un, bien souvent la dent dure d'ailleurs, ou pourquoi pas creuse si vous avez les crocs. Des crocs pour croquer la vie à pleines dents ou au contraire chicoter à en grincer des ratiches. Les expressions faisant référence à nos canines molaires et autres incisives émaillent notre vocabulaire et témoignent ainsi de l'importance que nous accordons à notre dentition. En psychanalyse, Gustav Jung, entre autres, interprétait même les rêves mettant en scène la chute des dents comme un signe de peur ou de résistance au changement. Ne souriez pas, car c'est sans doute pour éviter aux plus petits de se casser les dents sur cette angoisse que nos imaginaires, armés jusqu'aux dents, accouchèrent finalement d'une petite souris pour récupérer que notes et tranquillité d'esprit. Vous l'avez compris, notre sujet du jour nous fait ouvrir bien grand la bouche pour vous parler d'une toute nouvelle découverte qui pourrait expliquer la grande résistance de nos dents. Nos invités travaillent tous deux au laboratoire bio-ingénierie et nanosciences de Montpellier. Ils ont découvert grâce à une technologie 3D une structure mystérieuse cachée au creux de nos dents. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Archives of Oral Biology. Avec nous en studio, Alban de Souterre, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes technicien et doctorant donc au LBN, c'est bien ça ?
C'est ça.
Et Frédéric Cuisinier, vous êtes professeur donc à la faculté d'odontologie et chercheur donc au LBN également.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. Toujours sur les dents pour mener cette interview avec moi, Aline Perriot, bonjour.
Bonjour Lucie,
j'ai
bonjour
eu un petit doute d'un coup.
Non, ça passe, c'est bien.
En deuxième partie d'émission, nous vous emmenons au CHU de Montpellier où Philippe Godard nous présente le Colibri, le système d'assistance circulatoire extracorporelle le plus léger au monde. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors on l'a dit en introduction, vous avez donc mis à jour une structure mystérieuse de la dent. Forcément ça interpelle, d'abord parce que des dents on en a tous plein la bouche et qu'on n'imagine pas forcément qu'elles puissent encore recéler des mystères ces dents. Alors en quoi c'est complexe la structure de la dent, Frédéric Cuisinier peut-être ?
Oui, alors la dent et en particulier l'émail, qui est la couche qui recouvre la dent, qui est le tissu le plus résistant et le plus minéralisé de l'organisme, ça a été longtemps un très grand mystère et finalement jusqu'à quand maintenant on découvre des choses dedans. C'est très complexe parce que c'est des cristaux de phosphate de calcium qui s'appellent de l'hydroxyapatite qui ont une taille nanométrique mais qui peuvent être très très longs, quasiment plusieurs microns de longueur. Ces cristaux ne sont pas individuels et ils ne partent pas comme des polymères dans la matrice. En fait, ils sont organisés en familles. Chaque famille de cristaux est sécrétée par la même cellule. Les cellules qui produisent ces cristaux sont les améloblastes. Et c'est des cellules qui vont disparaître quand l'émail est formé. Donc on forme de l'émail une fois dans sa vie. Quand on a fait la dent, après on ne peut plus réparer l'émail, puisqu'il est à l'extérieur. Donc ces cristaux sont organisés en 3D dans cette couche qui peut avoir jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur. Donc c'est une structure très très complexe avec plusieurs échelles d'organisation.
Alors, dans votre étude, vous vous intéressez en particulier aux molaires. Alban de Souterre, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui caractérise les molaires et en quoi est-ce qu'elles sont différentes des autres dents ?
Alors, les molaires, elles sont différentes des autres dents parce que c'est elles qui vont broyer les aliments, donc c'est elles qui ont les plus grosses contraintes mécaniques. Et on s'est intéressé aux molaires parce que c'est d'abord dans ces dents-là qu'on a découvert un peu par hasard les structures qui nous intéressent aujourd'hui, qui n'avaient jamais été décrites, donc ce qu'on a appelé en français les drapés de l'émail, et qu'on traduit en anglais par enamel draped tuft.
Alors justement, donc c'est draped tuft, je ne vais pas y arriver, c'est drapé de l'émail, est-ce que vous pouvez nous les décrire justement, où est-ce qu'elles sont situées sur la dent, Alban de Souterre ?
Oui. Alors on a maintenant une vue assez précise, elles sont situées au niveau de la jonction entre l'émail et la dentine. Monsieur Cuisinier a parlé tout à l'heure de l'émail et de sa complexité. Il faut savoir que la dentine a une complexité identique quasiment, puisqu'elle est organisée en microtubules, avec y compris du collagène, c'est-à-dire des protéines. Et donc, à l'interface entre ces deux matériaux, on a une zone qu'on appelle la jonction émail-dentine, qui est très complexe, puisqu'en fait, elle est constituée de plusieurs couches. Et elle joue un rôle mécanique important dans l'accumulation des contraintes, dans la prévention des cassures. Et c'est à ce moment-là, c'est dans cette zone-là, qu'on a pu apercevoir pour la première fois grâce au micro-tomographe, dont je vous parlerai tout à l'heure, ces structures qui ont une périodicité très particulière, qui sont très longues et qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été encore décrites, hein, et qui forment en effet des drapés. Voilà, sur toute la jonction émail-dentine, si vous prenez la surface de la dentine, vous voyez sur les prémolaires et les molaires, vous voyez ces lignes qui ondulent et qui ont une petite orientation par rapport à cette surface. Et c'est ça qui a été quelque chose de magique, c'était de découvrir quelque chose qu'on n'avait pas encore vu dans les manuels d'histologie et pour l'instant qu'on ne voit que dans la revue que vous avez citée tout à l'heure.
Alors justement, sur la structure de la dent, vous évoquez aussi dans votre publication quelque chose qui s'appelle les bandes de Hunter-Schrager et qui pourrait être à l'origine de ces fameux draped tufts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que ces bandes de Hunter-Schrager justement ?
Alors, Hunter-Schrager, c'est un histologiste du 19e siècle qui a découvert une biréfringence de la lumière sur les prismes de l'émail. C'est-à-dire que quand les prismes de l'émail sont observés longitudinalement, on a des bandes claires, et lorsque c'est perpendiculaire, on a des bandes sombres. Donc on a des striations qui apparaissent lorsqu'on regarde l'émail, une coupe d'émail, en microscopie optique. Voilà. Et donc ça traduit la complexité de l'organisation de l'émail. Parce qu'on a parlé des prismes, des cristaux qui forment les prismes, et les prismes qui sont organisés, mais ils sont organisés en famille, puisqu'on va retrouver sur un même endroit des cristaux qui sont des prismes qui sont perpendiculaires et d'autres des couches où ça va être perpendiculaire. Donc il faut comprendre que les cellules qui les forment vont reculer et vont se croiser pour former ces structures très complexes. Alors chez l'homme, c'est un peu désorganisé, mais il y a des animaux comme le rat où c'est une magnifique structure 3D comme un tissu 3D.
Alors avant d'en dire plus sur la fonction de ces drapés de l'émail, on va s'arrêter quelques minutes donc sur leur découverte. On les avait déjà vus donc en 2D en fait, c'est bien ça. Et là on vient de réaliser qu'ils étaient en 3D. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment vous avez découvert ça, Alban de Souterve, et peut-être pourquoi ça n'avait pas été découvert avant. Et là je vous donnerai la parole, Frédéric Usinier.
Oui, alors d'abord, si vous prenez un livre d'histologie et que vous regardez dans les tufts, hein, vous allez avoir des images en deux dimensions de structures hypominéralisées en forme de buisson qui se situent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la jonction entre l'émail et la dentine. Ce qui a été à l'origine de cette découverte, hein, tout d'abord, c'est que le département de paléontologie de l'Université de Montpellier a acquis un nouvel instrument, un microtomographe bien plus performant que ceux qu'on avait auparavant. Cette plateforme est animée par Renaud Lebrun, qui est extrêmement dynamique et qui fait vivre cette plateforme-là. Et donc, ce microtomographe, aujourd'hui, permet de descendre à des résolutions aux alentours de 5 microns et en dessous. Et pourquoi c'est très important, cette question de la résolution? Parce que les tufts font entre 8 et 10 microns d'épaisseur, c'est-à-dire 2 pixels quand vous êtes à 5 microns de résolution. Quand vous êtes à 18 microns, comme c'était le cas auparavant, vous passez à côté. Quand vous arrivez à 5, vous pouvez voir cette structure. Et c'est justement parce qu'on a pu, à un moment donné, scanner une tranche d'émail pour regarder autre chose, parce que là c'est typiquement de la sérendipité, c'est-à-dire qu'on regardait une zone déminéralisée, on regardait un white spot, et en regardant ce white spot, j'ai vu tout d'un coup, au niveau de la jonction, quelque chose qui était étonnant, puisqu'il y avait une ondulation, que ça se suivait et que c'était extrêmement long. Et en faisant une reconstruction en trois dimensions, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas encore décrit. Et donc, c'est grâce à ce microtomographe. Alors, pourquoi on ne l'a pas vu avant? Tout simplement parce qu'on a pris le bon instrument et on a regardé au bon endroit, au bon moment, avec une taille d'échantillon qui était relativement petite. Parce que ce qu'il faut, c'est à la fois une très bonne résolution, mais un échantillon très grand. Alors, ça donne évidemment des volumes de données extrêmement lourds, hein, mais c'est parce que justement, on a pu analyser une dent entière, une surface entière, avec une résolution de 5 microns, qu'on a pu voir une structure sur laquelle on était passé à côté. Parce que justement, on regardait en 2D. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On coupait. et puis vous regardez au microscope. Mais quand vous regardez en microscope, bah, vous voyez deux dimensions. Vous ne voyez pas toute la structure du début jusqu'à la fin. Et surtout, on ne détruit pas l'échantillon. C'est-à-dire que les rayons X, ils passent à travers l'échantillon tourne, on reprend l'échantillon comme on l'a mis, c'est-à-dire que c'est vraiment sans contact. Et donc, on peut voir la densité interne, on peut voir toutes les structures internes d'un échantillon, justement, grâce à ces rayons X qui sont pénétrants et grâce à un algorithme qui va nous permettre de reconstruire les coupes en niveau de gris, donc de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de la dent.
Et Frédéric Cuisinier, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, les dents, c'est quelque chose qu'on a l'impression de relativement bien connaître depuis le temps. Et finalement, on se rend compte que, bah non, on découvre encore des choses. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre comme ça autour de la structure de ces dents qui nous paraissent si communes ?
Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des ombres ? On les connaît très très bien au niveau histologique. Moi, j'ai travaillé dans les années 80-85 pour ma thèse d'université sur des détails atomiques avec une résolution du niveau de 2 angstroms pour comprendre la carie dentaire. Parce que quand vous commencez à avoir une carie dentaire, c'est cet émail que vous allez dissoudre.
Juste si on peut préciser l'échelle de ce que c'est qu'on a déjà parlé dans l'émission, mais un angstrom, ça représente quelle distance ?
Ah ben c'est 10 moins 10 mètres, donc 10 zéros après la virgule, voilà. Donc c'est vraiment très petit. C'est la limite de la résolution qu'on a à peu près avec les microscopes électroniques à transmission. Donc on a essayé de comprendre le plus profond. On est parti de l'histologie classique, puis on a augmenté notre résolution, mais on voyait de plus en plus des petits détails sans comprendre la globalité de l'organisme et de l'émail. Et donc, c'est l'avantage de ces techniques en diffraction des rayons X. On arrive à avoir une extrêmement bonne résolution, même dans un grand volume, avec un contraste élevé qui nous permet de voir facilement, parce que l'émail est très minéralisé. À l'intérieur des drapés de l'émail, c'est de l'air ou de l'eau. Donc, le contraste, ça nous permet de voir très bien ces structures.
Alban de Souter, vous vouliez rajouter ?
Oui, je veux rajouter quelque chose. C'est que quand on a commencé à regarder ces premières images, d'abord, on a été très surpris parce que ce n'est pas quelque chose qu'on était habitué à voir. Et mon premier réflexe, ça a été évidemment de le faire partager à la communauté, parce qu'en France, on a quelques personnes qui connaissent bien l'histologie dentaire. Donc, je l'ai montré à mon responsable, donc professeur Cuisinier, je l'ai montré à des gens qui travaillent au laboratoire, je l'ai montré à Paul Taforo, qui travaille à Grenoble sur le synchrotron, justement. Je l'ai montré à Delphine, enfin Madame Carayon, où on a justement pu discuter ensemble. Et voilà, personne n'avait encore vu quelque chose semblable. On a émis d'abord différentes hypothèses, peut-être que c'est une cassure, peut-être que c'est un artefact. On connaît bien les cassures dans les dents, on connaît bien les artefacts en microtomographie, ce n'était pas ça. Donc on avait découvert quelque chose que, évidemment, personne ne connaissait, y compris des gens qui avaient travaillé très longtemps sur les structures secondaires de l'émail dentaire.
Alors, donc ces buissons drapés, pardon, les drapés de l'émail, vous dites qu'ils pourraient expliquer la grande résistance des dents au cours du temps. Donc en quoi ils viennent expliquer ça, en fait ?
Alors, d'abord, c'est que la dent, c'est quelque chose qui est extrêmement résilient. C'est des millions de cycles masticatoires sur des dizaines et des dizaines d'années. Et on peut avoir des gens qui ont des dents en parfait état très longtemps. Voilà. Contrairement à d'autres animaux qui usent leurs dents au cours de la vie. Par exemple, le cas qu'on cite à chaque fois, c'est l'éléphant. L'usure dentaire de l'éléphant fait qu'à un moment donné, il n'a plus de molaires, il ne peut plus broyer les végétaux. Et donc, il meurt de faim parce que justement, il ne meurt pas de vieillesse, hein, il meurt parce qu'il
n'a
plus la possibilité de pouvoir manger. La question, c'est comment expliquer cette grande résilience dentaire ? Parce qu'il y a énormément de contraintes. Par rapport à notre masse musculaire, on a des contraintes très fortes sur les molaires. Et donc, évidemment, il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Il y a le fait que la dent est logée dans l'os avec un ligament. On a différentes couches. On a le cément, on a la dentine qui n'ont pas le même module Young, c'est-à-dire la dureté par rapport à l'émail. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Et la question, c'est quelle est la proportion d'accumulation de contraintes pour chacun des tissus. Et quand on a vu ces structures qui recouvrent la dent et qui sont hypominéralisées, qui généralement génèrent des cassures, parce que quand la dent casse, généralement, ça a été une étude qui a été publiée dans les années 90, ça part des tufts, on s'est dit sans doute que ces structures-là jouent un rôle. Alors la question, c'est à quelle échelle, hein, c'est-à-dire quelle est la proportion d'accumulation des contraintes que peuvent jouer ces structures-là. On n'en sait rien pour l'instant, on va faire des simulations. Évidemment, c'est les simulations mécaniques, donc en éléments finis. On fera sans doute des tests mécaniques. On a beaucoup de pistes pour essayer de voir à quel point ces structures sont utiles dans la résistance. Et par rapport à l'évolution, Justement, on en parlait, c'est la question de savoir depuis quand ces structures existent. Et là, évidemment, on s'est tourné en direction d'une équipe de spécialistes, donc l'équipe de recherche qui est adossée au Muséum de Totavel, qui est une antenne de l'Université de Perpignan. J'ai discuté longuement avec Tony Chevalier, justement, qui est, lui, un collectionneur et un analyseur de dents très anciennes, donc... c'est moins 500 000 ans, hein, c'est Aldenbergensis, donc c'est ce qu'on appelle l'homme de Totavel, et donc on va essayer de regarder depuis quand on trouve ces structures. Et dans les deux cas, ça sera intéressant, soit parce qu'on va les trouver, on dire tiens, c'est quelque chose qui date, soit on ne les retrouve pas, on va se poser la question à partir de quand ces structures ont pu apparaître, à partir de quand l'organisation moderne qu'on connaît de l'émail, depuis quand ça date, voilà.
Alors, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, pour la suite des travaux, vous envisagez de faire des manipulations au synchrotron de Grenoble. Alors, le lien, je pense, tout de suite, n'est pas évident. Qu'est-ce que vous iriez faire là-bas? Qu'est-ce que vous allez chercher au synchrotron, Frédéric Cuisinier?
Le flux de rayons X dans un synchrotron est beaucoup plus cohérent. Et donc, on a une meilleure résolution, on a plus d'intensité, et une meilleure résolution et un meilleur déphasage, donc un contraste plus fort. Donc, c'est pour augmenter notre résolution et pouvoir passer à une grande quantité de dents pour commencer à avoir une vraie statistique.
Parce que pour l'instant, vous êtes sur combien de dents?
Alors là, pour l'instant, c'est une dizaine de prémolaires et de molaires. Ce qui est, d'un point de vue statistique, on les retrouve partout. Bon, c'est quelque chose qui est relativement bien appuyé. Hein. Quand vous avez 10 individus qui représentent exactement la même structure, vous pouvez faire des généralités. Ce qu'on aimerait au synchrotron, c'est avoir une résolution bien meilleure. C'est qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est aux alentours de 5. Au synchrotron, on peut descendre jusqu'à 3, voire en dessous, pour un échantillon entier. Et surtout, on a ce qu'on appelle le contraste de phase, qui permet d'avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'optique. C'est-à-dire qu'on va voir au synchrotron, en 3D, en tomographie, quasiment la même chose que ce qu'on peut voir avec un microscope optique. Voilà. Donc on verra des détails qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir avec la machine qu'on a. C'est-à-dire qu'on va voir bien mieux l'organisation, on va pouvoir beaucoup mieux voir la dynamique, et on pourra le voir en 3D sur l'ensemble de la surface, sans pas obligé de faire des petites tranches, et donc c'est quelque chose qui va nous ouvrir énormément de portes. Alors évidemment, le synchrotron, vous n'y rentrez pas comme ça, il faut faire une démarche pour présenter votre projet, donc on l'a présenté une première fois, on va le représenter une deuxième fois, il y a beaucoup de projets qui sont recalés, qu'il faut représenter, et évidemment, le fait qu'on ait pu publier, qu'on ait pu... faire partager à la communauté, y compris au grand public, cette nouveauté, ça va nous permettre justement de pouvoir avoir accès, nous l'espérons, à du temps, parce que évidemment ça se compte en heures, hein, et voilà, c'est ce qu'on appelle une cabane, c'est-à-dire qu'il y a un faisceau d'électrons qui tournent et qui, en décélérant sur le côté, vont pouvoir générer des flux de rayons X qui sont très cohérents, qui sont beaucoup plus énergétiques, et donc avec une résolution qui sera bien meilleure. Donc on espère que tout ce qu'on a communiqué à l'extérieur concernant ces structures va nous permettre d'ouvrir les portes d'un outil qui est encore plus performant.
Alors, est-ce que c'est une spécificité humaine, donc c'est drapé de l'émail, Frédéric Cuisinier? Est-ce que vous l'avez observé chez d'autres animaux, ou au contraire, est-ce que vous avez vu qu'on ne les trouvait pas chez d'autres animaux?
Alors, sur quelques animaux dont on a les dents au laboratoire, en particulier la souris et le rat, on ne les a pas trouvés. Il faut qu'on augmente nos modèles animaux, il faut qu'on les regarde chez les ruminants, qui utilisent beaucoup leurs molaires, chez les carnivores, les molaires des carnivores, voir si on peut trouver une règle qui lierait aussi, si on rappelle l'émail, avec le type d'alimentation, le type de contraintes qui s'exercent sur ces dents. Mais là, c'est un travail qui reste à faire.
Alors, vous l'avez dit un petit peu, vous avez prévu de nouvelles investigations sur ces structures, sur leur origine, leur fonction, sur leur présence dans le cadre de l'évolution. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu, au-delà du synchrotron allemand de Zouter, ce qui reste à faire pour qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent, nous aussi?
Oui. Tout d'abord, la première des choses, c'est essayer de valider une hypothèse concernant le rôle mécanique. Donc là, il va y avoir deux branches qui vont s'ouvrir. C'est la simulation, c'est-à-dire essayer de voir si, en prenant un modèle théorique de cube d'émail avec et sans ces structures, est-ce qu'on trouve des résultats qui valident notre hypothèse ou qui nous orientent. Et après, on peut tout à fait imaginer des tests mécaniques, pareil, en prenant des petits cubes d'émail et des petits cubes d'émail dans lesquels il y aurait ces structures-là. Évidemment, ce n'est pas forcément facile à mettre en pratique, mais on peut tout à fait imaginer qu'on va réaliser un certain nombre de tests et de voir s'il y a une différence et à quel degré, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas, ou alors est-ce qu'il n'y en a pas. Voilà, donc là on part un peu dans l'inconnu, c'est pour ça que les hypothèses, il faut toujours être très prudent, on ne peut pas non plus brûler les étapes, donc on va faire des investigations, mais en tout état de cause, il y a toute une série de gens qui au laboratoire sont intéressés par cette nouveauté et qui veulent approfondir, parce que c'est un nouveau champ qui découvre et qui pourra même y compris avoir des applications en clinique peut-être, puisque comme ces structures sont à la jonction entre la dentine et l'émail, ça pourrait tout à fait être une piste de réflexion pour avoir des prothèses ou du collage qui soit beaucoup plus performant. Évidemment, ça c'est pas ma partie, donc je ne m'avancerai pas là-dessus, mais en tout cas on discute avec des gens qui eux soignent au quotidien et qui sont intéressés par les découvertes qu'on fait.
Alors il y a eu beaucoup de presse autour de cette découverte, est-ce que vous vous y attendiez, Frédéric Cuisinier?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je pense que ce qui a attiré les journalistes scientifiques, c'est que c'était vraiment une première structure qui était observée. Donc, c'est facile à comprendre et facile à valoriser. C'est la première fois qu'on a été contacté spontanément par une journaliste. Vraiment, on était très, très surpris.
Et justement, est-ce qu'on peut dire un petit peu plus quelques mots sur ce laboratoire que Lucie a évoqué, qui est le vôtre, le laboratoire bio-ingénierie et nanosciences d'odontologie? Il s'appuie directement sur un centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire. Est-ce que c'est courant, ça, d'avoir un centre de soins au milieu d'un campus en odontologie?
Non, c'est pas courant. Alors, bon, globalement, il y a à peu près 16 facultés de chirurgie dentaire en France, et il y en a très peu qui ont un laboratoire propre intramuros qui travaillent sur des sujets dentaires qui valorisent la recherche dentaire. Il y a certes des facultés qui ont des gros laboratoires, mais qui sont des unités mixtes et qui travaillent sur des sujets un peu connexes, comme les biomatériaux, etc. Donc c'est vraiment une spécificité de Montpellier, et c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai été recruté à Montpellier. Moi, j'ai fait mes études et j'étais maître de conférence à Strasbourg, et je suis venu à Montpellier pour créer ce laboratoire avec cette philosophie.
Un grand merci à vous deux, Frédéric Cuisinier et Alban de Souterre, pour toutes ces explications. C'était passionnant et on attend la suite. Alors,
on reviendra vous voir.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci. Et on passe maintenant à notre séquence reportage et on part au CHU de Montpellier, Aline.
Oui, c'est ça. On part plus précisément au service d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Arnaud de Villeneuve, où le docteur Philippe Godard nous présente le Colibri. C'est le système d'assistance circulatoire extracorporelle le plus léger au monde. Et à Montpellier, 4 patients ont déjà bénéficié de ce drôle d'oiseau et c'est une première mondiale.
Alors, je suis le docteur Philippe Godard, je suis le chef de service du département d'anesthésie et réanimation à Arnaud de Villeneuve. On est dans le centre de recours régional des assistances circulatoires pour les patients en choc cardiogénique ou en arrêt cardiaque réfractaire. Alors le Colibri, c'est une évolution et une innovation d'un appareil qui est connu depuis plusieurs années en réanimation, qui s'appelle l'ECMO. C'est une assistance circulatoire périphérique temporaire qui permet de suppléer la fonction du cœur et des poumons.
C'est-à-dire que pour un patient dont le cœur et les poumons ne fonctionnent pas, cet appareil-là, il va prendre le relais, il va assurer les mêmes fonctions. Comment il fonctionne ?
Oui, complètement. C'est une circulation extracorporelle qui va récupérer le sang veineux, le faire passer dans une pompe et un oxygénateur et le réinjecter dans le système artériel sous pression. Donc c'est un débit qui est continu, contrairement au cœur qui est pulsatile, mais ça va complètement remplacer les fonctions cardio-pulmonaires d'un patient qui est défaillant. L'ECMO donc suppose une console avec un moteur qui permet de faire tourner la pompe et de surveiller un certain nombre de paramètres. Et habituellement, ces consoles sont assez volumineuses et assez lourdes. Et même s'il existe des solutions mobiles, elles sont encore à perfectionner. Et donc, la plupart des appareils que l'on a en réanimation sont plus difficilement mobilisables pour aller chercher des patients à l'extérieur, dans d'autres établissements qui n'ont pas ces technologies, ou simplement transporter le patient pour faire des examens, passer un scanner ou une coronarographie, par exemple. Voilà, la nouvelle entité qui est le Colibri, il y a une double fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on peut l'implanter et le faire fonctionner de façon complètement autonome et être ultra mobile puisqu'il est extrêmement léger. Il pèse moins de 9 kg avec l'ensemble de l'équipement qui va dessus. Et puis, on peut ensuite le rassembler avec la station d'origine qui est un peu plus massive et qui permet d'avoir un élément fixe au lit du patient en réanimation quand on ne bouge pas et avoir des éléments de secours supplémentaires.
Comment est-ce que ça fonctionne? Quel est le parcours, par exemple, du sang dans la machine?
Alors en fait, c'est tout le circuit, il n'est pas présenté là. Hein, c'est un circuit à usage unique qui est stérile et qui est connecté sur des grosses canules, des gros tuyaux qui sont mis en place dans les vaisseaux du patient, hein, en général au niveau fémoral. La circulation se fait à travers la machine par une pompe qui est une pompe centrifuge. Et qui, dans ses configurations de ce modèle-là, avec une innovation importante, c'est qu'elle est en lévitation magnétique complète pour limiter complètement les frottements et la destruction de globules rouges liés à la circulation. Et ce sang est ensuite amené à travers une membrane qui permet d'enlever le CO2 et de l'enrichir en oxygène avant de le renvoyer dans les artères et la circulation du patient.
Donc ça remplace le rôle du cœur et des poumons en même temps ?
Oui, complètement. Alors on a des configurations, alors c'est la même machine, simplement ça dépend comment on met les tuyaux dans le patient. Si on veut faire que de l'assistance respiratoire, on récupère le sang dans les veines et on le réinjecte dans les veines au plus près du cœur. Et le sang arrive déjà oxygéné vers les poumons qui ne sont pas fonctionnels. Comme par exemple dans le Covid, c'est ce qu'on a fait pour un certain nombre de patients. Ensuite, quand on veut faire une assistance cardiaque, ben là on est obligé de remplacer cœur et poumons puisque le sang est dérivé de l'organisme dans le système veineux. Donc il ne va pas passer par le cœur, il ne va pas passer par les poumons. Et il va être directement réadministré au patient une fois qu'il a été oxygéné.
Oui, bonjour, Frédéric Boursorel, je suis infirmier perfusionniste dans le service du Dardé. Et nous sommes en fait une équipe de 5 infirmiers perfusionnistes au CHU de Montpellier. On gère toutes les circulations extracorporelles pendant la chirurgie cardiaque et en réanimation l'ECMO.
Et donc, qu'est-ce que ça change pour vous, cet appareil-là, le Colibri, par rapport à un appareil plus traditionnel qu'on aurait pu utiliser auparavant ?
En fait, dans le fonctionnement, assez peu de choses, puisque la technique, elle est rodée. Mais ce qu'on peut voir là directement, en fait, c'est l'encombrement du dispositif. Et donc, en fait, le Colibri amène en fait la possibilité de bouger beaucoup plus facilement. On l'a vu, on a été sollicité pas mal pendant l'épisode Covid, où nous avons eu à nous déplacer en hélicoptère ou en ambulance. Et vous voyez l'encombrement de l'ancienne machine par rapport à la nouvelle. Bien entendu, on est beaucoup plus à l'aise dans une ambulance avec ce type de dispositif qui est plus léger, plus ergonomique. Et qui remplit en fait la même fonction que la machine précédente, mais avec un encombrement beaucoup moins important.
Et il y a combien de patients qui ont bénéficié de cette nouvelle technologie, Arnaud Villeneuve, jusqu'à présent ?
Alors, puisque nous sommes centre référent, et on a eu la chance d'essayer ce dispositif. Et pour l'instant, il a été implanté sur 5 patients.
C'était une première en France, son utilisation ici à Montpellier ?
Alors, c'est même une première mondiale, puisque on a été le premier centre à l'utiliser en pratique clinique, avant les tests laboratoires, hein, précliniques. C'est un appareil qui a été développé en Italie. Et donc, on a eu cette opportunité de pouvoir être les premiers à le tester, à donner nos impressions et nos commentaires sur ce dispositif. Voilà, c'est une belle expérience. On va continuer ces tests. Là, actuellement, il y a d'autres équipes en France et en Europe qui ont commencé à l'utiliser aussi. Et voilà, on va faire une synthèse à peu près de tous les centres, on va dire, premiers utilisateurs pour rendre compte un petit peu de nos commentaires, nos premières impressions sur le dispositif. Voilà, donc c'est une nouvelle aventure, quelque part, c'est une étape, hein, dans la prise en charge des patients sous assistance circulatoire.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetan pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.